De retour dans pour cette émission spéciale en direct de la Bibliothèque des Studios pour aborder la suite de la programmation du Festival Désir Désir qui se tient jusqu'à mardi prochain au studio et ailleurs en Touraine. On va aborder un autre film qui a fait l'ouverture hier de ce festival de Désir Désir et qui aura une sortie nationale dans les mois prochains. On va parler de We the Animals de Jérémia Zagar avec Mathilde. Bonjour.
Bonjour. Donc We the Animals qui a fait l'ouverture hier, comme tu disais, du festival, et je pense que ça a été une très belle surprise pour les festivaliers. We the Animals, c'est l'histoire de trois gamins, Manny, Joel et Jonah. On avait Jonas juste avant et maintenant on va parler de Jonah, qui est notre petit héros. Ça se passe quelque part dans l'upstate New York. Ces trois gamins, ils sont toujours ensemble, on les voit jamais à l'école, on les voit jamais l'un sans l'autre. Et ils sont dans le vase clos familial. Ils vivent avec leurs parents qui vivent une relation amoureuse tumultueuse, passionnelle, dangereuse, absolument pas maîtrisée, un désir complètement taré qui expose les enfants au plus grand bonheur que peut offrir l'amour, mais aussi parfois au plus grand malheur que l'amour peut offrir malheureusement aussi. Et on suit ce jeune Jonah dans cette histoire. C'est en gros le plot.
Moi j'ai trouvé que c'était ni vraiment un drame familial ni vraiment une chronique sociale. C'est parfois onirique tout en étant, j'ai trouvé très réaliste. En tout cas, j'ai trouvé une grande hybridation de ce film-là. Est-ce que ça t'a fait le même effet?
Alors, moi, ça m'a fait un peu penser au film Moonlight. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, avait gagné un Oscar l'année dernière. Mais bon, un peu même genre, mais une situation différente. Donc oui, une critique un peu sociale, c'est vrai. Un peu un côté documentaire avec, évidemment, on est dans un peu ce qu'on pourrait appeler le white trash américain, où la misère est quand même assez profonde. Les gamins se retrouvent à aller dormir dans l'usine du papa parce que personne ne peut les garder. Il y a à peine à bouffer pour tout le monde. Et en même temps, là où est la force, à mon avis, du réalisateur, c'est de rendre quand même une situation assez laide et violente, extrêmement belle, extrêmement poétique et très onirique, avec en effet des plans superbes et des couleurs très douces. Moi, je trouve qu'en effet, c'est comme tu dis, une belle hybridation du documentaire et en même temps un impressionnisme.
Oui, parce que rappelons que c'est adapté d'un roman qui est donc plutôt autobiographique, hein. Donc le film est documenté de l'aspect littéraire et en plus de l'aspect vécu de l'auteur du bouquin. Alors c'est un film sur l'enfance évidemment, puisqu'on y suit donc Jonah qui a 10 ans, sur les premiers émois, la découverte du corps. On a aussi quelque chose de très charnel, de très sensoriel. Les corps sont exposés, les garçons vivent torse nu tout le temps. On est dans un état très il suit des saisons assez ensoleillé, il y a une petite partie hivernale, on va dire, qui clôture le film. Mais c'est un film qui est assez charnel quand même.
Bah oui, on suit beaucoup le regard. Ouais. De toute façon, on sait que dans le désir, il y a beaucoup de regards. Mm-hmm. Et c'est vrai que la caméra, en fait, lâche rarement en fait le regard, et surtout le regard de cette maman, de cet enfant, qui sont des yeux bleus absolument qui absorbent tout. Et en effet, ils sont beaucoup dans de la nudité, mais on va dire très sauvage. Ouais, ouais. Et d'où peut-être le nom We the Animals, qui est cette espèce de meute, mm-hmm. Ce côté très animal où ils sont tous ensemble. Et oui, c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement charnel, que ce soit d'ailleurs entre les enfants entre eux. Que moi je trouve qu'ils ont quand même c'est comme une espèce de ces trois enfants, mais c'est comme un seul corps presque.
Une entité, ouais. Presque unique, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait.
Et puis évidemment les parents entre eux, et puis après les parents avec les enfants. C'est vrai que c'est très le côté charnel est très fort, et je trouve que c'est ce qui rend ce film extrêmement beau. En fait, c'est ce qui donne la chair de poule, ça vibre l'amour, quoi.
Oui, absolument, ouais. Parlons des personnages, et notamment du personnage du père, qui n'est pas très sympathique. C'est pas la meilleure personne du monde, hein, on va pas se le cacher, mais il est loin d'être détestable. Il aime ses enfants, il ferait tout pour eux, on le comprend très vite. Je trouve que c'est des personnages qui, malgré tout, et malgré donc ce personnage un peu antagoniste, restent très attachants.
Ah bah, je suis complètement d'accord. Je vois tout à fait comment une nana pourrait tomber amoureuse de ce mec-là. Même si, en effet, il a des côtés complètement... Enfin, voilà, c'est un mec assez violent, qui gère très mal ses émotions, qui est absolument immature. Mais oui, qui rend en plus cette famille très attachante. Puis c'est lui qui fait vivre des scènes de bonheur, enfin dans toutes les scènes très de bonheur, qui, donc la première partie du film, qui est où on a presque envie de faire partie de cette tribu, il est central là-dedans. Donc par lui arrive, je pense, beaucoup de bonheur, mais également aussi voilà, beaucoup de malheur.
Beaucoup de difficultés, oui.
Voilà.
Ouais.
Donc, ouais.
Très bien. Eh bien, donc, on rappelle, c'est With the Animals. Et le film n'a pas encore de date de sortie, mais il sortira en France. Et il a aussi eu le prix de la révélation au dernier festival de Deauville en septembre dernier. Donc, c'est peut-être un cinéaste qu'on retrouvera très vite dans les salles.
C'est sûr.
Et alors, on passe à notre invité suivant. Il s'agit de Grégoire Albou.
Bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'Université de Tours. Vous appartenez également à l'unité de recherche ICD. Est-ce que déjà, tout d'abord, vous voulez nous expliquer ce qu'est cette unité de recherche ?
Ben, les universités françaises, depuis des réformes assez récentes, se sont regroupées. Et quand vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes à la fois enseignant. Donc j'espère que Jonas, malgré sa mauvaise expérience des profs, j'espère qu'on fait de notre mieux aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'était intéressant qu'il dise ça. Et donc, quand vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes à la fois donc, enseignant et chercheur, et vous êtes rattaché à un laboratoire. Donc ça permet de mutualiser les moyens. Et ICD à Tours, c'est un grand laboratoire qui a été fondé en 2012. Qui est dirigé par Elisabeth Gavoil, et où il y a trois axes. Le thème principal, parce que les laboratoires sont organisés par, j'en vais employer un mot soviétique, plan quinquennaux, c'est liberté. Moi, je trouve que c'est un très beau sujet. Et donc, vous avez trois axes. Et le troisième, celui dans lequel on a abrité cette manifestation dans le cadre de Désir-Désir, c'est les genres, construction et déconstruction, donc justement pour aborder toutes ces questions-là.
Voilà, donc dans ce cadre, vous allez proposer une journée d'études le 1er février 2019 de 9h30 à 17h sur le site des Tanneurs. Donc cette journée, voilà, il y aura énormément de contenu, d'interventions de professionnels divers. Est-ce que vous voulez, avant de détailler un peu cette programmation, nous raconter en fait comment s'est fait le lien avec le festival Désir-Désir ?
Bah, tout est de la faute du festival. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous trouver, me trouver en l'occurrence, recommandé par une des personnes du laboratoire, et ils m'ont dit on voudrait faire quelque chose avec l'université. Voilà. Donc on a discuté, et puis comme le festival n'a pas les mêmes contraintes en tant que l'université, on est parti pour faire quelque chose d'assez général. C'est-à-dire, quand vous faites un colloque à l'université, vous lancez des appels à contribution, et c'est assez œcuménique, assez démocratique, très ouvert. Voilà, donc on est parti sur quelque chose de très général, mais on s'est dit, c'est ça la vraie réponse à votre question, c'est qu'on voulait absolument à ICD, faire quelque chose avec désir-désir. Et ça faisait partie de la thématique, hein, ne serait-ce que par le terme liberté, hein, et puis aussi parce que l'université, elle doit aller au-delà aujourd'hui du circuit universitaire. Et il faut, je pense, c'est un objectif scientifique de diffuser localement et auprès du plus grand public.
Voilà, donc dans cette journée hein, qui s'appelle « La question LGBTQ dans les séries ». Étendue, normalisation, normativité. Alors déjà, peut-être que cette appellation peut être obscure pour certains auditeurs. Est-ce que vous voulez peut-être un peu déplier et nous dire de quoi il retourne ?
Alors, le LGBTQ, je pense que tout le monde connaît, non ? Oui, est-ce qu'il faut encore redire ?
Ah bah, sait-on jamais ? Après tout, nous ne savons pas qui nous écoute, bon. Alors profitons-en.
Alors, lesbien, gay, bi, trans et queer, et puis après vous avez d'autres nomenclatures. La question LGBT dans les séries, ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti sur les séries télé. Et puis, quand on a fait le programme qu'on voit là, c'est pas très radiophonique, mais bon, moi, je leur ai dit, mais attendez, la télé, c'est fini, c'est les nouveaux usages, et c'est totalement la série. Donc, voilà, la télé a disparu. Et puis, ce que j'ai voulu, personnellement, c'est pas simplement parler de représentation, parce que je pense qu'à travers la représentation, on parle vraiment de statut. Hein, vos invités aujourd'hui ont été vraiment dans ce sens-là, je pense. C'est la place qui est occupée, le statut, comment on en parle. C'est pas que des questions de représentation. Voilà. Donc du coup, On va regarder. C'est un petit peu ce que tout le monde a proposé dans leur communication, qui sont pas écrites pour l'instant. Enfin, moi, je parle juste sur un synopsis de parler de ce qui est normalisation, normativité, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez important aujourd'hui. Le festival Désir voulait beaucoup qu'on parle de banalisation. Spontanément, ils nous ont parlé de Plus belle la vie. Bon, c'est vrai, c'est des choses très importantes. Mais ce que je crois et ce qui me fait vraiment très plaisir là dans ce qu'on a là, c'est qu'il y a un mélange. On peut y revenir après, de films d'auteur et de films de séries cultes. On va parler aussi un tout petit peu de cinéma, mais aussi de télévision grand public. Et je suis très, très frappé par ce qu'a dit Jonas tout à l'heure en parlant de France 3, où la responsable des programmes voulait donc un personnage trans depuis 4 ans. Et ça, je trouve que c'est un énorme progrès d'entendre ça. Moi, j'ai travaillé toute une partie de ma vie dans ces organismes-là avant d'être prof. Et il y a un travail qui est fait de pionnier presque, hein, au quotidien, de tests, de compromis avec les audiences. Il y a une intuition d'un côté, il y a une demande de l'autre, tout ça se retrouve. Ça progresse comme ça peut, mais là, c'était très intéressant ce qui était dit par Jonas. Et on va avoir des choses sur Dynasty, sur, vous voyez, des vieilles séries.
Alors, peut-être on peut passer en revue assez rapidement cette programmation pour allécher nos auditeurs, hein, quand même, rappelons-le, cette journée d'études qui aura lieu le 1er février 2019 au Tanner, voilà, 5e étage de la bibliothèque universitaire. Donc, ça commence à 9h30 et c'est Concetta Penuto, Elisabeth Gavoil et vous-même qui ouvrez le bal. Donc, Concetta Penuto, on peut rappeler que c'est la chargée de mission égalité de l'université de Tours. Alors.
Et ils nous ont bien aidés.
Oui.
Donc je suis content que vous en parliez parce qu'il faut, il faut remercier Concetta. Et bon, il y a eu beaucoup de lois hein, qui ont été votées. Et dans la perspective de ces lois sur l'égalité, la parité, etc., les universités, et en particulier à Tours, se sont lancées dans un développement justement de promotion et de lutte, ça dépend le terme que vous voulez employer, pour l'égalité et aussi le handicap. Et l'idée de cette mission-là, c'est vraiment de prévoir et essayer d'empêcher les discriminations, les stéréotypes et aussi les violences. Et ils ont un programme que je trouve très, très bien fait. Et c'est important, je trouve, qu'à l'université, on s'occupe de ça aujourd'hui et que surtout on le formalise. On le formalise par écrit et puis qu'on ait des programmes. Et j'en profite parce qu'il ne faut pas oublier de le dire, qu'il y a une semaine de l'égalité organisée par l'Université de Tours, la semaine du 4 avril.
Voilà, notez ça dans vos agendas. Alors Grégoire Albou, est-ce que vous voulez nous déplier un peu ce programme de 10h à 12h? Là, on voit qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 intervenants. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, on a réparti la journée en deux thèmes, le matin, l'après-midi. On construit ça à partir des propositions qui nous arrivent. C'est ça que je trouve ça très intéressant. Hein. Et on n'est pas en train de donner des directives, donc c'est assez ouvert. C'est ça qui est bien dans ce genre d'exercice. Et donc, le matin, on va être en train de parler surtout d'auteurs, de politique de représentation et un petit peu de théorie queer. Donc c'est un parti un peu plus théorique. On a Anne Crémieux qui est une spécialiste de la représentation des minorités qui va nous parler de la série Sensuite et d'un militantisme nourri de théorie queer. Alors ne me posez pas de questions sur Sensuite parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc je ne sais pas comment c'est nourri de théorie queer, mais ce que je sais en revanche, c'est que si vous croisez différents critères comme série web, série queer, vous avez le militantisme, la théorie qui aujourd'hui devient sujet de fiction, comme dans Les Engagés, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et il faut regarder comment ça se passe. Hein, voilà. Après, vous avez ma star américaine, parce qu'il en faut toujours une, c'est Nick Davis, que j'ai rencontré dans le cadre d'organisations internationales sur le cinéma. Il enseigne à l'Université de Chicago, à Northwestern, et il va parler... Et ça, c'est très, très intéressant aussi, d'un réalisateur coréen qui s'appelle Andrew Han et qui fait à la fois de la série et du cinéma. Et il va un peu questionner ses ambiguïtés en tant qu'auteur. Bon, donc, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je ne les ai pas vues, mais en tout cas, j'ai regardé les réceptions qu'elles avaient eues. Il a fait un film qui s'appelle Spa Night, littéralement la nuit du spa, qui est assez hard, j'ai l'impression. Et puis, cette série de 2018, This Close. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand vous parlez de cinéma ou de séries LGBT, la notion d'auteur, je pense, est absolument essentielle. Parce qu'il y a une intention, il y a une volonté, il y a une personnalité. Encore une fois, j'ai été très frappé par l'intervention de Jonas juste avant. On sent vraiment des individualités très engagées. Bon, donc ça, c'est intéressant.
Alors, pardon, juste une parenthèse, oui, pour les empêchés linguistiques qui ne parlent pas anglais, est-ce que cette intervention sera traduite ou...
Là, on va faire de la haute voltige. Non, ce ne sera pas traduit, mais on va faire un petit résumé avant et un petit résumé après.
Voilà. Bon.
Mais comme maintenant, tous les amateurs de séries, tous mes étudiants regardent des séries sans sous-titres. Donc, ça y est, je pense que là, il n'y aura pas de problème. Bon. Et puis, je ne sais pas, peut-être que Nick nous fera il est francophone, il utilise le subjonctif. On a eu une grande conversation sur le subjonctif, donc je crois qu'il va peut-être nous faire ça en français. Mais bon, on verra.
Et donc, Sarah l'Écossais et vous-même, Grégoire Albou.
Alors, Sarah l'Écossais, c'est intéressant parce que c'est une spécialiste des enquêtes de terrain. C'est un peu une sociologue aussi. Et elle va nous parler des scénaristes. Mmh. Et qu'est-ce que les scénaristes peuvent faire, veulent faire Donc elle a un terrain en ce moment là-dessus, une étude, et donc elle va nous en parler.
Et alors vous, de quoi vous allez parler ?
Alors moi je vais parler de homonormativité et de désaffection des publics dans la série Looking, qui a été détestée, haïe par la communauté gay, et qu'à titre personnel j'ai trouvé fantastiquement romantique et très bien. Donc voilà, c'est une affaire de génération peut-être. Mais en tout cas, c'est l'occasion de parler de Andrew Haigh, que je trouve un auteur anglais très très intéressant. C'est lui qui a fait Weekend, qui est sorti en 2006. Récemment, il a réalisé Lean on Pete. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Ça a été accueilli avec un peu de scandale. C'est un garçon, enfin c'est un auteur, voilà, c'est un auteur. Et puis il navigue justement entre télévision, série, et là il travaillait dans la série Looking, il était co-showrunner, co-réalisateur, co-scénariste pour cette série de HBO qui donc s'est arrêtée au bout de deux saisons.
Bon, ensuite bon quand même on aura une pause déjeuner bien sûr, et ensuite voilà, les festivités reprennent de 14h à 17h, études de cas internationaux, audience, réception. Ah, de quoi sera-t-il question ?
Alors, l'idée, c'était qu'après l'auteur, la réception, c'est très important dans une série LGBT ou dans toutes les séries qui montrent des publics invisibles, ou en tout cas qui ont une forte demande de visibilité. Donc, déjà le matin, Anne Crémieux, elle, c'est une spécialiste de la réception aussi, elle devrait en toucher un petit mot. À l'après-midi, il y a une intervention double sur Hannibal et les Fannibals. Donc ça, moi, j'ai très, très envie de... J'attends avec impatience ça. Ça peut être la meilleure et la pire des choses, parce que je ne sais pas si vous êtes allé à Comic-Con à San Diego pour voir tous les gens qui font du cosplay, ça peut être terrible. Donc je ne sais pas ce qu'elle va nous montrer comme image. Mais bon, en tout cas, le phénomène des fans, c'est très très important. La réappropriation par les publics, la réinvention de l'œuvre, c'est quelque chose d'important. Et puis on a aussi une doctorante qui va nous parler du coming out dans les séries américaines. Et ça, on l'a programmé notamment en synergie avec le festival Désir Désir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille en fiction grand public. Hein, on n'est pas dans de la niche, là. Donc ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue sur YouTube aujourd'hui. Sauf qu'elle va nous parler de Dynasty, Will and Grace, enfin toutes ces séries-là. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Qu'est-ce que le mainstream américain, par exemple, en l'occurrence là, a fait justement pour la visibilité des publics invisibles.
Voilà, donc nous rappelons, chers auditeurs, que cette journée d'études internationales, la question LGBTQ dans les séries étant d'une normalisation et normativité, se tient le 1er février 2019 de 9h30 à 17h. Je reprends mon souffle, 5e étage de la bibliothèque universitaire. Et je crois aussi, Grégoire Albou, que pour vous aider à préparer tout ça, vous avez eu une équipe d'étudiants aussi de l'IUT qui ont travaillé... Voilà, oui. Quel a été leur rôle d'ailleurs à ces étudiantes, peut-être ?
Alors, ce sont des étudiantes de l'option communication en un département Infocom. Donc, elles ont fait une chose essentielle, mais pas que. Elles ont choisi la musique. Elle va venir tout à l'heure, donc c'est pas moi, c'est elle. Donc, c'est générationnel.
Oui.
Et puis, elles ont fait toutes les relations avec la presse. Voilà.
Et alors, comment vous leur avez présenté ce projet ? Parce que c'est spécifique quand même. Est-ce qu'elles ont adhéré tout de suite à la thématique ? Ou est-ce que ça se trouvait dans leur parcours d'études ? Et ma foi...
Comment dire ? Assez curieusement pour quelqu'un de ma génération, je ne vais pas vous faire l'histoire des années SIDA, c'est extrêmement touchant de voir des étudiants de 20 ans pour qui ça n'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est une question très intéressante. Voilà, donc c'est comme ça que je répondrai, et je ne pensais pas qu'un jour je serais ici, pas très loin de la retraite, à faire ce genre d'émission. Voilà.
Voilà, donc vous êtes ravis d'être là.
Très.
Bon, voilà, vous avez entendu.
Et la journée est ouverte à tous.
Et c'est gratuit.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, non mais précisons-le, parce qu'il y a peu de choses gratuites quand même en ce bas monde. Donc écoutons la musique choisie par vos étudiantes.
That great big hill of hope. for a destination.
On continue cette émission consacrée au festival Désir Désir avec Radio Campus, Radio Béton et Radio Active. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la médiathèque du cinéma des studios à Tours jusqu'à 17h30. Et on va parler à présent des partenaires de ce festival qui sont assez nombreux. La librairie Bédélire par exemple, le cinéma théâtre du Rossini à Loches ou encore le collectif Trouble qui organise la soirée Bifur Queer le 1er février au Point Haut. On en a parlé tout à l'heure avec Thomas.
Et Béton y sera d'ailleurs.
Et Béton y sera.
Petite promo comme ça, voilà.
Mais on va s'intéresser pour le moment à l'école de cinéma de Tours qui est partenaire donc sur le festival pour la deuxième année. Avec vous Isabelle Hortaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'école. Cette année encore, les courts-métrages réalisés par les élèves de l'école seront projetés en ouverture de la soirée de clôture. C'est une belle opportunité pour eux ?
Ah, c'est merveilleux. Ils ont sauté de joie d'ailleurs quand ils ont su. Et pour nous, c'est vraiment, comme disait Grégoire tout à l'heure, tout est de la faute du festival Désir Désir. Et dès la première année, ils nous ont proposé de participer. Donc on venait d'ouvrir en septembre et donc ça a été très très chaud pour proposer des courts-métrages. Et, en revanche, là, on s'est préparé un petit peu plus à l'avance et on a une offre qui était plus, je pense, éclectique et intéressante pour le festival.
C'est important pour vous de collaborer à cet événement, j'imagine. Et pour vous, Anthony, est-ce que c'était évident d'intégrer l'école sur ce festival ?
Oui, pour l'équipe du festival, bien sûr. C'était, merci pour le micro. Je disais donc que oui, pour l'équipe du festival, c'était juste tout à fait naturel. Une école de cinéma vient s'installer à Tours. On est au sein des cinémas studios. Ça nous paraissait évident de contacter Isabelle et de voir avec elle ce qu'on pouvait faire ensemble. On a eu la chance, alors qu'il venait à peine de s'installer, qui nous disent oui tout de suite et qu'ils se mettent au travail tout de suite. Cette année, c'est la deuxième année. Alors forcément, c'est peut-être un peu plus abouti, on pourra en parler. Et du coup, on a deux sessions, la première année et la deuxième année, du coup, qui ont travaillé ensemble. Donc c'était forcément nécessaire, on avait envie de ça et on est ravis qu'ils aient accepté.
Et nous aussi, c'est vraiment un mariage heureux.
On va reparler un petit peu des courts-métrages un peu plus en détail plus tard, mais on va faire un petit point d'ailleurs sur sur cette école hein, qui est récente dans la région et qui, je crois, est la première école de cinéma et d'audiovisuel en région Centre-Val-de-Loire.
Tout à fait.
Comment ça se fait du coup que cette école s'est implantée ici ? Ça manquait ?
Oui, ça manquait. C'est surtout que moi, je suis ici maintenant depuis quelques années. Et effectivement, cette idée m'est venue parce que j'ai cherché et qu'il n'y en avait pas. Et que ça me semblait... Enfin, je savais que Tours était une ville de cinéma avec le studio qui est le premier cinéma art et d'essai d'Europe. Et puis, il y avait une grosse activité autour du cinéma. Et il manquait le premier maillon de la chaîne qui était la formation.
Vous travailliez justement dans le cinéma avant de créer cette école ?
Oui, mon mari et moi étions, lui, dans le cinéma et moi dans la télévision. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette légitimité pour créer cette école.
Alors, vous accueillez combien d'élèves depuis 2017 ?
50 élèves par promo, à peu près. Donc, cette année, c'est 55. L'année dernière, c'était 50. Donc, on a environ une centaine avec les deux promos.
Du coup, la formation se déroule sur combien de temps ?
C'est 2 ans.
Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce que vous formez ces élèves à quoi précisément ?
À tous les métiers du cinéma, on est tout à fait dans la pratique dès la deuxième semaine. C'est pour ça qu'on a pu réagir très rapidement l'année dernière, puisque dès la deuxième semaine, ils tournent. Alors, on est sur une pratique par l'erreur, c'est-à-dire qu'ils tournent et ensuite on fait le débrief pour savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mal fait, pour pas qu'ils le refassent après.
Est-ce que les élèves qui intègrent cette école, décidément, sont des élèves qui ont déjà... une expérience en audiovisuel ou dans le cinéma ?
Non, pas forcément. Il y a les deux. Il y en a qui sortent directement du lycée, donc ils n'ont jamais touché à quoi que ce soit. Et il y en a qui sont allés voir ailleurs, qui ont fait des films, qui ont fait des options cinéma et qui veulent recommencer à zéro une formation, j'allais dire, en bonne et due forme.
Alors, est-ce que 2 ans, c'est suffisant, du coup, pour trouver un emploi dans ce milieu ?
Alors, trouver un emploi, c'est quelque chose d'autre. Après, 2 ans, c'est suffisant pour la formation parce qu'on ne perd pas de temps, justement, puisqu'on est tout de suite dans la pratique et on apprend vraiment les réflexes professionnels immédiatement. Parce que comme tous les intervenants de l'école sont des professionnels, ils font part de leur expérience et ils partagent. Et donc, ici, on est là aussi pour leur montrer un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, leur parler des codes du cinéma. Par exemple, je dis toujours, on est tous en jean, mais attention, tu ne vas pas taper dans le dos du producteur. Ça se passe pas comme ça. Donc on leur fait gagner du temps en leur expliquant les choses comme ça.
Alors l'année dernière, vous le disiez, les élèves étaient tout juste rentrés, la première année en tout cas en 2017, sur le festival Désir Désir. Les élèves ont présenté aussi des courts-métrages et ils étaient tout neuf, tout récent dans cette école. Du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a donné des choses intéressantes tout de même, la présentation des courts-métrages ?
C'était les thèmes qui étaient toujours intéressants, puisqu'on parle toujours du thème de la discrimination. Donc, ils ont des choses à dire. Après, dans la forme, ça peut être plus ou moins maladroit, c'est vrai. Mais je pense que vous avez été content ici au Festival Désir-Désir de ce que vous avez vu.
Oui, on a été contents. Et puis surtout, on a aussi cette volonté à Désir-Désir, en partenariat avec Cyclique, on va en parler après, de montrer aussi des choses qui sont faites ici. Alors là, on a à la fois cette école qui arrive et qui s'installe et donc qui va faire parler dans les années à venir, j'espère très rapidement. On a des professionnels qui vont faire rayonner la Touraine. Nous, on a un grand écran blanc qu'on leur permet d'utiliser. En plus, ils utilisent nos thèmes. Hein. L'année dernière, bon, c'était assez général. Aujourd'hui, cette année, ils ont travaillé un peu plus sur la thématique l'invisibilité, mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, des cours sur la discrimination, sur la place de la femme, etc. Donc, voilà, tout ça réuni a fait que c'est forcément une richesse pour nous. L'année dernière, effectivement, ils ont été diffusés en tout début de séance de la clôture. Cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin et de leur réserver une séance spéciale court-métrage. Donc, ils vont être diffusés après la clôture. Il y aura une séance supplémentaire de court-métrage. Et les 6 ou 8... 7. Les 7, pardon, voilà. On en a sélectionné 7. Les 7 premiers courts-métrages seront issus de l'ESCAT. Et on a voulu les mettre en avant à ce moment-là parce qu'on trouve que, bon, d'abord, ils sont... Bien sûr, il y a peut-être des choses maladroites, etc. Mais d'abord, c'est un travail d'étude. Et puis, mais surtout, ils sont dans le thème.
Il y a une réflexion.
Il y a une réflexion. On sent qu'il y a une patte. Hein, peut-être qu'il y a une patte de l'école de l'ESCAT de Tours qui va dans les années à venir se dessiner dans le paysage cinématographique français. Et puis après, ces cours... On retourne sur 4 cours un peu plus traditionnels, en tout cas bien travaillés avec des vrais professionnels, où là on est quand même sur autre chose, ce sera des cours en musique, on va faire un peu, voilà, en clôture en fait, ce festival. Mais effectivement, pour nous, les cours de l'ESCAT, c'est essentiel parce que ces jeunes, tu l'as dit, ils ont des choses à dire et ils représentent aussi le cinéma de demain. Et donc, il faut bien commencer un jour, et bien on est ravis à Désir-Désir de leur permettre ça.
Un mot justement, Isabelle, sur les courts-métrages qui vont être présentés cette année sur le festival.
Oui, j'étais vraiment très surprise de la réponse que la nouvelle promo m'a donnée, puisqu'on a été assez large. Alors, on était parti sur un premier thème qui était effectivement dégénération, dégénérescence, donc qui est devenu le thème de l'invisibilité dans Désir-Désir. Et ils avaient un peu de mal à se projeter dans la vieillesse, tout simplement. Mais donc, on a ouvert le thème sur la déclaration des droits de l'homme et la discrimination. Et là, on a vu que plusieurs thèmes ressortaient vraiment très fort, donc déjà la position des femmes, et un nouveau thème, j'allais dire nouveau pour les jeunes qui arrivent tout d'un coup à comprendre que quelque chose de nouveau arrive au niveau des trans. Et donc là, j'ai eu un film assez intéressant sur cette position-là. Et pour moi, c'est vrai que, pour notre génération, donc j'ai 50 ans, c'est vrai que ce thème-là n'est pas évident, et que moi, j'étais très, très heureuse de voir qu'il émergeait sans que je demande quoi que ce soit. Donc on a eu quand même à peu près 50 scénarios différents et qui partaient autour de ces thèmes-là, et c'était vraiment très intéressant.
Vous avez justement fait une sélection au sein de votre école ?
Oui, bien sûr.
Tous les élèves ont participé, ont réalisé un court-métrage, et ensuite seulement 7 ont été sélectionnés pour être présentés sur le festival.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Tous les élèves ont écrit. Après, on a fait une première sélection sur les scénarios et après une deuxième sélection sur les films réalisés.
Alors, j'imagine que pour ces étudiants, voir un premier court-métrage, le leur en tout cas, diffusé sur grand écran, c'est assez... Enfin, ça doit être chouette.
Oui, je vous dis, tout à l'heure, ils ont vraiment... certains ont sauté de joie. Moi, je ne sais pas eux, mais moi, je sais que l'année dernière, quand j'étais arrivée dans cette salle avec pleine, avec ce grand écran, j'avais vraiment le cœur qui battait pour eux. Donc, j'espère que cette émotion va les atteindre également.
Alors, c'est important justement de leur proposer des pistes de réflexion, justement de faire des courts-métrages sur des choses, sur la discrimination. Ça, c'est ce que vous souhaitez au sein de votre école, un peu inculquer à vos élèves ?
Oui, c'est une des choses qui me tient vraiment à cœur, ça du côté humain. Toujours, je serai prête à participer au Festival Désir qui... qui traitera de ce thème. Mais comme disait Grégoire tout à l'heure, ce qui est important, c'est les auteurs et les idées. Donc, donc il y a deux thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, c'est celui-ci, la discrimination, et la deuxième, c'est l'écologie. Et donc, ils sont pas encore tout à fait mûrs par rapport à ça. C'est un peu loin pour eux, mais je lâcherai pas.
Alors, est-ce que le fait de présenter des courts-métrages sur ce festival va leur donner peut-être l'idée de présenter ce qu'ils ont fait pour Désir dans d'autres festivals? Est-ce que ça peut être un tremplin, entre guillemets, pour eux?
Oui, bien sûr, on va essayer. Donc moi, je suis toujours la, celle qui dit si les films peuvent sortir ou non, parce que... me permettez quelque chose d'un peu technique. Il n'y a pas de sous-titres sous les films qui disent attention, c'est un film d'un élève de 2 mois seulement, il n'est pas tout à fait parfait. Donc il faut vraiment que ce soit des films qui soient visibles sans qu'il y ait derrière une arrière-pensée en disant oui, non, t'as vu, c'est pas terrible. Donc vraiment, je fais sortir les films de l'école qui sont visibles. Mm-hmm. Donc bien sûr, oui, j'espère que certains d'entre eux pourraient aller à d'autres festivals. Et le deuxième gros projet qu'on a donc dans l'année, c'est le CROUS qui organise toujours un festival, un concours de films étudiants, donc on va y participer.
Alors si jamais des gens qui nous écoutent, ou en tout cas des jeunes gens souhaiteraient intégrer cette école, il y a des portes ouvertes, je crois, qui ont lieu au mois de mars.
Le 16 mars, le samedi 16 mars, oui. Donc toute la journée, les élèves et les professeurs seront là pour montrer ce qu'on fait à l'école. Il y aura notamment un plateau qui est mis en place où on tourne des scènes. Donc on voit vraiment comment ça se passe dans la pratique pour de vrai.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle. On va continuer à parler des autres partenaires qui sont présents sur ce festival avec vous, Anthony. On a parlé donc de Bédélire, ou on va en tout cas en parler, puisqu'il propose une rencontre dédicace pendant ce festival.
Oui, cette année, on a souhaité s'associer à Bédélire parce qu'on voulait faire un travail sur la BD. On s'est rendu compte en cherchant à droite à gauche, lorsqu'on a décidé de se focaliser sur le thème du vieillir, qu'il n'y avait quasiment plus aucune édition aujourd'hui à Angoulême qui ne présente pas au moins une BD qui est en lien avec le genre, avec l'homosexualité, avec les questions de transidentité. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une rencontre avec un auteur. Et on est tombé sur un auteur qui s'appelle Pochep, qui avait réalisé il y a quelques années une BD qui s'appelle Vieille Peau, dans laquelle il exprime sa problématique d'homme de 50 ans homosexuel au sein du milieu homosexuel parisien. Alors qu'il continue à essayer de draguer, il se rend compte qu'en fait, il est plus bodybuildé, il est peut-être pas aussi attirant qu'un jeune et faible. Et donc, cette bande dessinée-là nous a fait beaucoup rire parce qu'avec beaucoup d'humour, en fait, il traite de ce sujet-là. Et puis, comme on aime bien confronter les gens au Festival Désir, on s'est dit, on invite un garçon, c'est bien, mais enfin, on aime aussi les filles, nous. Hein, et donc, on a envie d'inviter une femme qui traite de ces questions-là. Et Lillison a répondu favorablement à notre demande. Elle viendra parler de sa BD
Vagin tonique. Un guide décomplexé de l'autonomie féminine, c'est ça?
Tout à fait. Donc, là aussi, il y aura matière à échange entre les deux parce que, bien évidemment, ils ne traitent pas du même sujet, mais en même temps, sur le fond de l'affaire, ils traitent tous les deux quand même des questions essentielles aujourd'hui. Et donc, le public est invité à venir les rencontrer en partenariat avec Bédélire qui va animer cette rencontre qui aura lieu au sein du musée du compagnonnage. Voilà, ce sera samedi à 14h30. Donc que toutes celles et tous ceux qui ont des bandes dessinées à faire dédicacer viennent, ils pourront également en acheter sur place. Et puis surtout, on aura un débat sur comment les auteurs de bandes dessinées se sont appropriés ce sujet-là, comment ils le font sortir, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a le maître Ralph Koenig qui, depuis des années, avec ses bandes dessinées, qui sont plutôt d'ailleurs orientées vraiment sur une sexualité masculine, est là. Mais aujourd'hui, il y a des mangas japonais qui sont lus par pléthore d'hétérosexuels au Japon et qui traitent spécifiquement des sujets de genre, des enfants comme Jonah dans le film With the Animals qui se découvre une attirance, etc. Donc voilà, ça va être une très belle rencontre et on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir discuter avec les deux auteurs.
Alors un petit mot avant de faire une petite pause musicale, il y a aussi comme partenaire le cinéma théâtre du Rossignolet à Loches.
Oui, c'est une des volontés du festival d'essayer de sortir des studios au sein de ces partenariats. Et donc on a envie d'aller en Sud-Touraine. L'année dernière, on avait initié un petit partenariat, je dis petit parce qu'en fait ça s'était fait en dehors de la semaine cinématographique. Cette année, le théâtre du Rossignolet nous fait le plaisir de nous recevoir à nouveau pour une séance de projections de courts-métrages. Ce sera gratuit pour le public. Donc on invite vraiment les Lochois et tous ceux qui sont en périphérie de Loche et du sud du département qui n'ont pas forcément la possibilité de venir à Tours durant cette semaine, à aller voir au Théâtre du Rossignolet les trois courts-métrages qu'on va présenter, parce qu'en plus ils sont en lien avec le thème ce qu'il faut le rappeler, parle de l'invisibilité des seniors et de la sexualité des personnes âgées, même si âgées c'est pas très joli comme mot.
Des sages, des plus sages.
Des plus sages, voilà.
Alors on va continuer cette émission et puis on va écouter juste un morceau cette fois. C'est vous, Isabelle Heurteau, qui avez choisi d'écouter Twilight,
Twilight,
d'Anthony and the Johnson, c'est ça ?
Exactement.